Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky explique aujourd'hui que l'armée a besoin d'encore un peu de temps avant de lancer une vaste contre-offensive très attendue. Mais déjà, les combats se sont intensifiés. Des frappes russes ont fait plusieurs morts civiles en début de semaine et certains Ukrainiens continuent à fuir. 8 millions d'entre eux sont aujourd'hui réfugiés en Europe, à l'abri des combats. L'une des routes de cet exil traverse la Russie et la Biélorussie pour arriver en Lettonie. Plusieurs centaines d'Ukrainiens sont déjà passés par la ville de Daugavpils, dans l'est de la Lettonie. C'est un point de passage où ils trouvent toujours de l'aide et du réconfort avant de continuer leur chemin. Reportage de notre correspondante dans les Pays-Baltes, Marielle Vituro.
À la gare de Daugavpils, Evita Savitska récupère 2 billets de train. La jeune femme aide tous les Ukrainiens de passage dans sa ville. Depuis le début de la guerre, ils peuvent circuler gratuitement en Lettonie. Ces billets seront pour Roxana et sa fille Lisa. Les deux femmes ont passé la nuit à Daugavpils avant de repartir pour Riga et de prendre un avion pour les Pays-Bas, rejoindre de la famille. Après plusieurs mois de guerre, Roxana a décidé de quitter Louhansk dans l'est de l'Ukraine.
Là-bas, la guerre fait rage depuis 9 ans et tout devient de plus en plus intense. La ville est à moitié détruite. Partout, il y a du matériel militaire, les bombes volent au-dessus de nos têtes, la terre tremble, les roquettes pleuvent. La nuit du 31 décembre, de nombreuses personnes sont mortes. Il y a des soldats partout, c'est terrible.
Avant que le train ne parte, c'est l'heure des embrassades, un moment essentiel pour Evita. Elle a déjà pris près de 1300 personnes dans ses bras depuis qu'elle a commencé à aider les Ukrainiens il y a un an.
Je voyais que quelque chose de terriblement injuste se déroulait. Les 2-3 premiers mois, je ne savais pas quoi faire. J'ai donné et encore donné. Quand j'ai eu la possibilité d'aider concrètement, je l'ai fait. Et ça m'a sauvée d'une certaine manière, avant de parler de sauver les autres.
It saves me first of all, not all those people.
Evita est soutenue par quelques organisations internationales. En ce moment, elle héberge Lydia et Sergueï. Ils attendent de rejoindre leur fils qui est en Norvège avec ses 3 enfants. Lydia se souvient des débuts de l'invasion russe.
Les premiers jours, nous nous sommes révoltés autant que nous avons pu. Nous sommes descendus dans les rues et avec des affiches, face aux soldats armés, nous scandions « Retournez chez vous, à la maison ». Nous avions tout et quand ils sont arrivés, Internet a disparu, l'éclairage a disparu, la télévision aussi, elle a été remplacée par la propagande russe. La vie a complètement changé.
Près d'un millier d'Ukrainiens se sont installés à Daugavpils. Certains travaillent à l'école, d'autres dans l'usine de réparation de locomotives. Mais dans cette ville très russophone où une certaine partie de la population reste pro-Poutine, tout n'est pas toujours évident pour organiser l'accueil des Ukrainiens, comme le raconte Evita.
Il y a des tensions, des conflits parfois. Des rumeurs circulent sur les Ukrainiens qui vont au café et ne payent pas, ou alors qu'ils arrivent ici avec de belles voitures, de l'argent et profitent des allocations sociales.
À la frontière non plus, quitter des territoires occupés n'a rien d'évident pour ces réfugiés ukrainiens. Ils doivent traverser la frontière entre la Russie et la Biélorussie. Comme certains ont été forcés de prendre le passeport russe, les gardes frontières ne les laissent pas passer. Il faut ensuite aller de Biélorussie en Lettonie, un moment souvent de grande tension, car les Biélorusses ne sont pas toujours bienveillants. Alexandre est bénévole comme Evita, lui est chauffeur et part régulièrement récupérer des Ukrainiens à la frontière, à tout juste 30 km de Daugavpils. À leur arrivée, ils sont soulagés, mais très traumatisés.
Tout a commencé avec des gens qui sont venus de Mariupol, des gens qui ont fui les bombardements, des blessés, des victimes du syndrome post-traumatique. Nous ne pouvons pas effacer leurs souvenirs. Nous ne pouvons pas leur dire « oublie tout », comme si nous avions une baguette magique. Mais nous pouvons essayer de remplacer les souvenirs par d'autres, de leur parler de l'avenir, de là où ils peuvent se rendre et de la vie plus facile qui les attend en Europe.
À cause de la guerre, Lydia et Sergueï ont dû abandonner leurs emplois. Elles travaillaient dans une banque, lui était architecte paysagiste. Pour autant, ils ne comptent pas refaire leur vie en Europe. Ce sont leurs enfants qui leur ont demandé de se mettre à l'abri, raconte Lydia.
Je veux juste que la paix arrive sur notre territoire. Nous ne voulons pas de cette paix à la russe. Ils nous imposent leur façon de vivre. Je suis pour une Ukraine libre. D'ailleurs, je ne veux plus parler russe. Avant, je ne parlais pas ukrainien, mais maintenant, je renonce au russe et j'apprends l'ukrainien.
En attendant ce moment, pour se rappeler sa patrie sur le chemin de l'exil et se redonner du courage, Lydia cuisine un borscht, une soupe à la betterave, roborative et réconfortante, son plat préféré.
La guerre de l'information fait rage, elle aussi, autour de l'Ukraine. En Russie, tout ce qui vient des Occidentaux est strictement contrôlé et censuré. Les autorités ont bloqué l'accès à plus de 500 médias étrangers. Alors, pour faire passer des infos, certains font preuve d'imagination. Le plus grand quotidien finlandais, le Helsingin Sanomat, dissimule ainsi des données importantes sur la guerre en Ukraine dans un jeu en ligne très populaire en Russie, Counter-Strike. Les explications de Carlotta Morteo.
Il faut s'imaginer une ville virtuelle défigurée par un conflit armé et au fond d'un sombre bâtiment, en suivant quelques indices, les joueurs tombent sur une salle secrète surnommée le Counter-Strike de la presse libre, dans laquelle ils trouveront une sélection d'informations sur les crimes de guerre commis par l'armée russe contre les civils. C'est le principal message de cette campagne. Sur un mur de la pièce est donc placardée une carte de l'Ukraine avec de nombreux points qui représentent les attaques contre la population civile, tout autour des photos ainsi que des témoignages recueillis par les correspondants de guerre du journal qui ont documenté, par exemple, le massacre de Boutcha où des centaines de civils ont été exécutés en pleine rue et enterrés dans des fosses communes. On trouve aussi le décompte estimé du nombre de soldats russes tués dans cette guerre aux alentours de 70 000 aujourd'hui. L'idée étant aussi de dévoiler ce que la propagande russe cherche à tout prix à cacher.
Carlotta, est-ce qu'on a une idée de l'impact de cette initiative ?
Alors, de l'aveu même du rédacteur en chef du journal Helsingin Sanomat, c'est une goutte d'eau dans un océan de désinformation. Ce qu'on sait, c'est que quand l'existence de la carte a été révélée le 3 mai, jour international de la liberté de la presse, plus de 2000 personnes l'avaient téléchargée. Difficile de dire dans quelle mesure les autorités russes pourront en bloquer la circulation, puisque le fichier, une fois enregistré sur son ordinateur, peut facilement se partager. Les journalistes finlandais se disent que ces contenus, ces preuves, pourront peut-être servir d'une manière ou d'une autre à ceux qui, à l'intérieur de la Russie, osent encore dire la vérité.
Carlotta Morteo depuis Helsinki en Finlande.
Bonjour, aujourd'hui RT France rejoint la famille RT, une nouvelle chaîne d'infos en continu.
Bonsoir à vous et merci.
Avant d'être bannie par l'Union européenne début 2022, la chaîne de télévision Russia Today avait des bureaux dans la plupart des grands pays de l'Union, dont bien sûr la France. Mais petit à petit, le média russe était devenu ouvertement un outil de propagande et de déstabilisation, ce qui n'avait pas toujours été le cas. Bonjour Léo Vidal-Giraud.
Bonjour.
En fait, à ses débuts, Russia Today n'était pas encore l'arme puissante qu'elle est devenue dans la guerre de l'information.
En tout cas, pas de façon aussi claire. Au départ, en 2005, RT est pensé comme une sorte de BBC, de CNN à la russe, c'est-à-dire un média international qui traite l'actualité avec un point de vue russe. Donc oui, c'est un outil d'influence, mais plutôt au sens du soft power traditionnel. D'ailleurs, sa stratégie est basée là-dessus. Oui, c'est une ligne pro-russe, mais son ton, son format, s'adresse au grand public et aux élites, et tente de les convaincre de façon somme toute assez classique. RT recrute des journalistes occidentaux, elle leur fait miroiter une liberté de parole totale, et elle va même se payer de belles opérations de com, par exemple en achetant en 2013 les droits de rediffusion du talk show de l'intervieweur star américain Larry King, ou en donnant une émission à Julian Assange début 2012. C'est une démarche qui est finalement assez mainstream.
Et quand est-ce que ça change alors ?
En fait, ça commence à changer au moment où tout se met à changer en Russie, entre 2012 et 2014. C'est la fin de la parenthèse libérale des années Medvedev, il y a eu en 2012 de grandes manifestations contre le retour au pouvoir de Vladimir Poutine, dans lesquelles le Kremlin a cru voir la main des Occidentaux. Et puis en 2014, c'est l'annexion de la Crimée, et les relations avec l'Occident sont définitivement compromises. À ce moment-là, RT va changer de braquet. Ça devient la machine de guerre informationnelle que l'on connaît, et sa doctrine pourrait se résumer ainsi. Les médias occidentaux sont des armes conçues pour déstabiliser la Russie, alors le Kremlin peut faire pareil. En 2014-2015, tous les médias russes internationaux sont regroupés au sein du même groupe, Russia Sivodnia, la Russie aujourd'hui. et même des médias réputés sérieux jusqu'alors, comme l'agence RIA Novosti, sont mis au pas, leurs anciennes équipes sont remplacées, et toute cette nouvelle machine, elle va être confiée à une personne en particulier, Margarita Simonian.
La rédactrice en chef de Russia Today.
Rédactrice en chef, directrice et surtout propagandiste parfaitement loyale. C'est la personne de confiance de quelqu'un qui en Russie a énormément d'influence, Alexei Gromov. Le monsieur propagande du Kremlin, un homme de l'ombre, qui gère tout ce qui touche de près ou de loin aux médias publics. C'est lui qui a sélectionné Margarita Simonian pour la placer en 2005 à la tête de RT, alors qu'elle avait à peine 25 ans. C'est lui aussi qui, 10 ans plus tard, la place à la tête de ce nouveau groupe de propagande internationale.
Quel est l'impact de ce tournant sur le fonctionnement de Russia Today ?
En fait, à partir de ce moment, l'objectif n'est plus de convaincre les Occidentaux raisonnables, les élites, les décideurs de la justesse du point de vue russe. Les projets sérieux qui allaient dans ce sens sont abandonnés. Les démissions vont s'enchaîner chez les journalistes occidentaux qui s'étaient laissés convaincre par le projet initial. Il y a de nouveaux médias qui se développent dans cette galaxie, par exemple Spoutnik, qui verse dans le conspirationnisme de très bas étage, qui va s'illustrer en 2017 pendant la campagne présidentielle en France, ou alors plus tard pendant le Covid en se faisant le porte-voix des antivax. Il s'agit maintenant de s'adresser aux franges, aux extrémistes, de saper les sociétés occidentales en y répandant la défiance et les idées complotistes, de jeter le discrédit sur les mécanismes démocratiques, en fait tout ce que l'on a pu voir ces dernières années à l'œuvre, en France et ailleurs, et qui a fini par faire expulser d'Europe Russia Today.
Merci Léo Vidal-Giraud. C'est bientôt l'été et donc les vacances. En Grèce, le mois de mai ouvre la saison touristique. Un quart de l'économie dépend des revenus du tourisme dans ce pays. Ces innombrables îles, dont plus d'une centaine sont habitées, sont depuis longtemps synonymes de farniente à la plage. Mais face au tourisme roi et aux bénéfices à tout prix, les habitants se sentent parfois dépossédés de leur territoire. Sur la grande île de Rhodes, comme ailleurs dans le pays, le débat est très vif autour de la question de la privatisation des plages. C'est un reportage de Joël Brenner.
À la mairie de Rhodes, le maire adjoint avance le chiffre de 95%. 95% de l'économie locale dépendrait du tourisme. Autant dire que sur l'île du Dieu Soleil, renommée dans l'Antiquité pour son colosse, le tourisme est roi. Mais malgré les revenus financiers indispensables à l'île et ses habitants, le guide Alexis Margos appelle à ne pas tout sacrifier au nom du tourisme. Lui qui attend certaines améliorations de la part des autorités locales.
Il y a beaucoup de choses à changer ici. Beaucoup de choses. Pour vous donner un exemple, améliorer les plages, parce que maintenant, le grand débat ici à Rhodes, et c'est un phénomène qu'on trouve en Grèce, bientôt il n'y aura plus de places publiques. Il y a eu des grands, entre guillemets, entrepreneurs qui se sont emparés des plages les plus populaires, ils ont fait des beach bars, etc. Interdit, par exemple, de mettre des chaises longues jusqu'à 2 mètres de la mer, et les chaises longues arrivent carrément jusqu'à la mer. Donc les locaux ne peuvent pas profiter de la mer, et des trucs comme ça.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure. Oui.
Le guide indique que malgré tout, même l'été, il y a toujours la possibilité de trouver des pans entiers de plages quasiment désertes, à condition bien sûr de s'éloigner des villes. Elpida Kirpassi est avocate. À part pour ses études, elle a toujours vécu ici à Rhodes. Elle, dont les deux parents travaillaient dans le tourisme, est bien consciente de l'importance du secteur en termes d'emploi et de revenus. Elle estime néanmoins que les choses vont trop loin.
Tout est développé avec un point de vue touristique à l'esprit. Les plages, par exemple, sont transformées en beach bars, en bars de plage, qui sont des lieux exclusifs. Cela signifie que les plages où nous allions quand j'étais enfant, puis jeune adulte, où nous jetions simplement notre serviette sur le sable et où nous pouvions profiter de la nature, eh bien à présent, nous devons payer pour y entrer. Pour accéder à un abri aménagé et protégé du soleil, les prix sont très élevés. Pour une famille de 4 personnes, dont les parents gagnent 800 euros par mois, ce n'est pas possible de débourser 30 à 40 euros par personne simplement pour aller à la plage en famille. C'est inacceptable. Tout est aménagé, tout est clôturé. De mon point de vue, pourtant, en ce qui concerne la nature, tout n'est pas destiné à être consommé ou exploité. Not everything is for own consumption and exploitation.
L'avocate redoute notamment que le court-termisme, qui pousse certains à exploiter chaque mètre carré de sable au nom du bénéfice immédiat, se révèle sur le long terme tout à fait contre-productif au niveau du secteur touristique dans son ensemble.
Sur le papier, la Grèce a des lois très strictes en ce qui concerne la nature et l'archéologie. Mais ces dernières années, nous voyons que les règles sont transgressées pour contenter de grandes entreprises ou de gros bonnets locaux, des gens qui ont de l'argent et qui s'en servent pour accéder aux autorités politiques. À mes yeux, c'est le pire de tout, parce que si l'on défigure la vieille ville, si l'on détruit les paysages et toutes les plages, alors que c'est cela notre richesse, c'est cela que nous vendons. Certains ne comprennent pas que si nous enlaidissons ces lieux et les rendons hors de prix, au final, cela va faire fuir les gens. Je ne sais pas quelles sont les solutions. Peut-être pourrait-on créer différentes zones de plage pour que certaines zones ne soient pas constructibles ou consacrées à l'exploitation touristique.
Christos Maliarakis préside lui une organisation culturelle, Riches, dont la mission essentielle est la préservation et la promotion du patrimoine de Rhodes, une île habitée depuis l'Antiquité grecque, comme en témoigne le site archéologique de la ville de Lindos.
L'an dernier, notre organisation a lancé une campagne contre les constructions illégales de bars de plage. De nombreuses plages sont protégées, non seulement en tant que plage, en tant qu'environnement naturel, mais aussi en tant que zone archéologique. C'est pourtant là qu'émergent parfois d'énormes constructions sorties de nulle part afin d'exploiter un bar de plage. Notre association s'est plainte et a entamé une action en justice pour protéger ces lieux. C'est à ce moment-là que j'ai été personnellement menacé dans un article anonyme publié dans un journal local. On voyait un dessin de moi pendu à l'extérieur de l'hôtel de ville de Rhodes. C'était clairement une menace pour dire « arrêtez de parler de ça ».
En arrêtant de parler de ça, c'est-à-dire des excès du tourisme roi, Rhodes prend pourtant le risque de voir son sable de plus en plus privatisé. Un phénomène déjà largement à l'œuvre dans les îles où le tourisme se développe presque sans autre régulation que celle de l'argent et où la côte n'est déjà plus parfois qu'un large bar de plage, comme par exemple à Mykonos.
La Grèce, l'Italie est confrontée au tourisme de masse. Certaines villes, malgré les protestations des habitants, deviennent des villes-musées, voire pire, de mini-parcs d'attractions, au risque de perdre leur jeunesse à cause de la pénurie de logements et du manque d'emplois qualifiés. C'est le cas de Venise, qui a perdu 30 000 jeunes en 20 ans. Au moment de la pandémie de Covid, la ville avait promis de limiter les entrées dans la lagune. Et pourtant, la capitale vénitienne prévoit aujourd'hui de doubler la capacité de son aéroport. Un projet auquel s'opposent vivement les habitants. Les détails avec notre correspondante, Cécile Debarge.
Un investissement de 2 milliards d'euros, 100 000 mètres carrés supplémentaires et un objectif de près de 21 millions de touristes accueillis par an. Le projet de master plan de l'aéroport de Venise pour l'horizon 2023-2037 voit les choses en grand. Aujourd'hui, l'aéroport a une capacité maximale de 12,5 millions de passagers. Les autorités régionales craignent qu'il n'arrive à saturation d'ici 2026. En ce début du mois de mai, les voyageurs attendent parfois des heures à la sortie de l'aéroport pour monter dans une navette qui les amène au centre historique. Les chiffres publiés par les autorités sur les présences touristiques confirment que Venise ne prend pas du tout la voie d'un ralentissement de sa fréquentation touristique. Au moins 18 millions de touristes dans la ville et 4% de PIB supplémentaires entre 2021, encore marqué par les restrictions de la pandémie de Covid-19 et 2022. Pourtant, pour préserver son écosystème lagunaire fragile et ne pas transformer la ville en musée en chassant les habitants, Venise a introduit récemment de nouvelles mesures pour limiter le tourisme de masse. D'abord, les énormes bateaux de croisière sont moins nombreux à pouvoir amarrer dans la lagune, 200 en 2022 contre plus de 500 en 2019. Ensuite, la ville souhaite imposer un billet d'entrée entre 3 et 10 euros la journée pour chaque touriste. Son entrée en vigueur prévue pour 2023 a été repoussée pour la énième fois par le conseil municipal en décembre dernier. Les habitants de Venise, qui sont encore environ 50 000, pourront s'exprimer jusque la mi-juin sur le projet d'aéroport. Depuis des années, ils dénoncent les difficultés pour se loger à des prix accessibles et le manque d'opportunités d'une économie entièrement tournée vers le tourisme.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et bien sûr sur votre plateforme de podcast. À demain.